Je vais vous proposer dès maintenant un interview. Et c'est un entretien avec la docteure Chloé Marvaux. Elle est médecin addictologue pour la délégation des Landes de l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. On a déjà échangé avec la docteure Marvaux quant aux risques en addicto liés au confinement et au déconfinement. Cette fois-ci, on va évoquer avec elle ses interventions pour l'ISA, Landes Insertion Solidarité Accueil, et le centre pénitentiaire Pémignan. Durant la crise sanitaire liée au coronavirus, son travail pour l'ISA a été quelque peu altéré. Mise aux normes et respect des gestes barrières, elle nous explique.
À la base, j'allais là-bas sur le dispositif des lits L2-3 Santé. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, expliquez-moi.
Alors, c'est un dispositif qui est financé par l'État et qui est dédié à des personnes sans domicile. Soit SDF au long cours, on a de temps en temps des personnes qui viennent et qui sont qui vivent dans la rue et qui ont comme projet de continuer à vivre dans la rue, soit des personnes qui sont en fin de logement, fin de droit et qui ont besoin de soins médicaux. À l'inverse du... Alors, c'est pas à l'inverse, mais le CHRS, donc le Centre de Réinsertion Sociale, c'est pour des personnes de sans domicile fixe ou qui sont en galère de logement mais qui n'ont pas forcément besoin de soins médicaux. Là, c'est vraiment un dispositif spécifique pour des gens qui ont besoin de soins médicaux, un peu comme vous et moi, vous auriez besoin de soins médicaux à votre domicile avec un infirmier ou un médecin qui viendrait vous voir de temps en temps, sauf que c'est des personnes qui sont à la rue, qui ont besoin de soins médicaux à domicile, donc en général, c'est des soins assez lourds. Et donc, on les loge le temps de ces soins ou le temps de leur trouver un logement. On travaille sur les deux tableaux. Et c'est pas du tout de l'addicto, du coup. C'est la médecine générale. Je suis médecin coordonnateur pour ce dispositif-là. Donc on travaille avec un cabinet d'infirmiers libéraux. Il y a un travailleur social, donc un éducateur, Bertrand Guyon, et moi-même. Donc on est à peu près 5. Enfin, il y a 3 infirmiers, un éducateur et moi. Et on travaille justement sur... On a 2 lits sur Mont-de-Marsan. Après, il y en a d'autres sur le territoire. Alors, je ne sais pas si on a à Dax, mais c'est un truc national, en fait. Il y a assez peu de lits en France, c'est dommage. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, on prend les gens, c'est des contrats à la base de 2 mois renouvelables. Alors, j'ai pas en tête les chiffres exacts, mais je crois, j'estimerais que c'est une moyenne de passage de 4 mois à peu près, le temps soit de les remettre sur pied, entre guillemets, d'un point de vue médical. Et dans ce cas-là, s'ils vont mieux au niveau santé, qu'ils ont moins besoin de soins, mais qu'on ne leur a pas encore trouvé de logement, ils passent sur le dispositif du CHRS, donc du Centre de Réinsertion Sociale. Soit au niveau médical, par exemple, on a souvent des personnes atteintes de cancer pour lesquelles, bon, bah voilà, c'est de l'accompagnement, soit de l'accompagnement de fin de vie, soit de l'accompagnement dans les chimiothérapies, etc. Donc on va pas être dans un objectif de les guérir, mais par contre, on les accompagne le temps de leur trouver un logement. Et à partir du moment où on leur a trouvé un logement, et ben on enchaîne, on passe le relais en fait à une activité, soit à l'hospitalisation à domicile, si vraiment les soins sont lourds, soit à une activité libérale avec des infirmiers et un médecin généraliste en libéral.
Ça, du coup, cette activité-là, pendant la crise sanitaire qu'on vient de traverser, vous avez réussi à maintenir...
Il s'avère que malheureusement, on a un patient qui est décédé tout au début du confinement. Sur les 2 lits, il y a une chambre qui a été libérée. Et on avait eu déjà un patient qui avait été relogé quelques semaines avant, même pas quelques semaines, quelques jours avant. Et donc, du coup, on avait eu les 2 lits dispo. Mais on a décidé de ne pas faire de prise en charge pendant le confinement parce que c'est des personnes qui sont fragiles. Et le dispositif des lits L2-3 Santé, il est intégré au CHRS. Et il y a une chambre qui avait été bloquée au cas où il y avait une suspicion de Covid au sein du CHRS. Donc on avait bloqué une chambre pour éventuellement pouvoir isoler un des usagers du CHRS dans le cadre des liens de santé. Et puis en fait, on a eu des demandes. Enfin, on n'a pas vraiment eu de demande déjà parce que tout a été un petit peu mis en pause. Et là, ça y est, on a réouvert. On a de nouveau les 2 chambres qui sont utilisées, quoi. Mais ça allait très vite en fait. Dès qu'on a réouvert, tout de suite, on a eu du monde.
Vous avez réouvert quand du coup?
Avant le 11, en fait, avant le 11 mai, on a eu quelqu'un qui est arrivé, en fait, c'était un cas d'urgence, quoi. Donc, je pense que c'était la semaine d'avant. Et là, on a eu une autre personne qui a été intégrée, là, cette semaine.
Ok.
Enfin, la semaine dernière, mercredi dernier. Donc, en fait, on a les 2 chambres. On n'a que 2 chambres, c'est très dommage, hein, parce que c'est un super dispositif. Et on a énormément de demandes. On a beaucoup d'attentes, forcément. Soit c'est des demandes qui viennent de, par exemple, là, je sais que sur la liste d'attente, on a Alors, je vous disais, il y a beaucoup de personnes atteintes de cancer. Il y a aussi des gens avec des fractures et des soins cutanés. Par exemple, des personnes qui sont à la grande, grande précarité depuis des années, qui à un moment donné se retrouvent hospitalisées suite à une chute ou une fracture. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau médical parce qu'ils sont dans un isolement médical où ils ne se font pas suivre. Et donc, ça va être des demandes suite à des fractures. Souvent, c'est des hôpitaux, en fait, qui... sur un truc aigu, finalement, se retrouvent avec des personnes qui sont en grande difficulté médicale et qui font appel à nous, du coup, dans ce cas-là, en espérant qu'il y ait une place pour pouvoir prendre le relais, un peu débroussailler le terrain, éventuellement partir sur un relogement si la personne est d'accord, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément être relogés, stabiliser au niveau médical, faire un petit peu le point et puis les aider à redémarrer, quoi.
Si les demandes sont nombreuses et que la liste d'attente a du mal à réduire, c'est que les moyens accordés au dispositif ne sont pas excessifs, comme nous le rappelle le docteur Marvaux.
On est dans le social, hein. Ouais. Dans le social, il manque des moyens dans tous les domaines. On manque de locaux, genre, et puis on manque de sous, mais ça c'est le principe du social. On fait partie d'un des pays... Voilà, on a tendance à penser effectivement qu'au niveau social, on a beaucoup de chance, c'est vrai, c'est par rapport à d'autres pays, et on compare toujours l'incomparable. Mais les gens, enfin moi, moi ça fait pas très longtemps que je suis en activité, donc moi j'ai l'impression, enfin ça fait pas très longtemps, avant j'étais aux urgences, j'ai travaillé, donc du coup j'ai passé mon internat en 2009, donc oui, ça fait 10 ans, et j'ai principalement travaillé aux urgences, et j'ai l'impression qu'au niveau précarité, ça se dégrade puissance 10 000, quoi. Donc il y a de plus en plus de gens dehors, de plus en plus... Donc forcément, tous ces dispositifs-là, qui étaient peut-être en quantité suffisante il y a quelques années, ils deviennent trop peu nombreux, mais c'est pareil, le 115, ils sont toujours débordés, en période hivernale, c'est l'enfer, enfin, c'est pareil, tous les dispositifs sociaux devraient être multipliés, mais ça coûte de l'argent et ça n'en rapporte pas. La pauvreté ne rapporte pas, la précarité ne rapporte pas. C'est comme les urgences, ça ne rapporte pas l'argent. C'est pour ça que les urgences n'ont pas de sous dans les hôpitaux, entre autres. Voilà, c'est les gens pauvres, ils ne rapportent pas d'argent. Donc forcément, les budgets dédiés à ces personnes-là, c'est les premiers sur lesquels on gratte, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que c'est des gens invisibles, quoi. Personne les voit, personne ne s'en occupe et puis on veut faire semblant qu'ils n'existent pas. Donc on va pas en plus leur donner de l'argent pour en plus leur sauver la vie. Donc c'est des petits dispositifs. On n'est pas. C'est dommage parce qu'on est une bonne équipe, on s'entend bien, ça se passe bien. C'est très agréable au niveau professionnel parce que c'est très intéressant. Les gens qui viennent, c'est des gens qui sont. Tout est à reprendre depuis le début. Et c'est vachement intéressant.
Avec les gens que vous accueillez, vous voulez dire tout ouais, reprendre depuis
tout
le début
à fait. Oui. Souvent, c'est des parcours de vie extrêmement difficiles. Alors, je dis pas que c'est des populations. C'est pas toujours facile, c'est sûr, parce que faut parfois être bien accroché. Hein. C'est des parcours de vie compliqués, très souvent. Enfin, on ne se retrouve pas sans logement par hasard, et en même temps, ça peut nous arriver à tous, quoi. Souvent, c'est des cascades de galères qui s'enchaînent et personne ne prévoit de se retrouver à la rue, personne ne prévoit de se retrouver dépendant à l'alcool, personne ne prévoit de finir par dormir dans sa bagnole. C'est vraiment un enchaînement de petites choses. Alors il y a des gens chez qui, c'est terrible à dire, mais c'était presque écrit dès le départ, ils naissent déjà dans des familles où c'est compliqué, ils naissent dans des endroits... Voilà, et il y a d'autres personnes, donc c'est juste une cascade d'événements qui terminent de manière dramatique, quoi. Et ça peut nous arriver à tous. C'est ce qu'on retrouve aussi en prison, en fait. C'est des gens avec lesquels on travaille, que ce soit au CHRS ou à l'ISA, enfin au IL2 Soins Santé ou au centre pénitentiaire, c'est pas des gens qui avaient prévu d'arriver là. Hein. Ils se sont pas réveillés un matin en se disant, bah tiens, si j'allais dormir dans ma bagnole avec des ulcères fesses et puis un diabète déséquilibré et puis pourquoi pas une petite tumeur. Et puis je vais pas me faire suivre parce que je trouve ça fun. C'est une cascade d'événements, de vie qui font qu'ils arrivent là. Et personne ne s'en occupe.
Personne ne s'en occupe, sauf effectivement les travailleurs et travailleuses du social. Malgré ce manque de moyens constant, les équipes déployées sur le terrain, sur notre territoire, ont cherché à mettre en place un dispositif pour ces personnes en difficulté lors des premières semaines de confinement.
On a monté un projet qui était super, avec, en partenariat avec l'hôpital et la source. Donc on était l'ANPA, la source et l'hôpital. Donc c'est un dispositif qu'on a appelé l'EXAM, donc c'était une équipe mobile de dépistage. Alors ça partait d'un bon sentiment, c'était vraiment, on était hyper emballés avec le docteur Lasbas, qui est très connu sur le territoire de Montois parce qu'elle travaille aussi au pôle d'accès, enfin à la PASS, pôle médical justement pour les grands précaires, et elle travaille au CEGID et elle travaille en addicto à l'hôpital. Et en fait, il y a un budget qui a été débloqué pour aller faire de l'évaluation, et on pensait du dépistage justement auprès des SDF, auprès des saisonniers, auprès des gens en camion, auprès des gens en camping-car. Et on avait aussi la possibilité d'aller évaluer les personnes au 115, donc à l'accueil d'urgence. Donc enfin, on était super emballés, en plus ça nous est travaillé tous ensemble alors que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Et en fait on nous a dit après coup qu'on restait sur du dépistage uniquement de gens symptomatiques. Et si jamais on avait une personne qui était symptomatique et dépistée et dont le test revenait positif, donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 24 heures pour les résultats, on pouvait lui proposer de l'envoyer dans un centre de confinement, donc un truc exprès pour les personnes à la rue, pour leur permettre de rester confinées et éviter de diffuser le virus. Sauf que ben voilà, les animaux n'étaient pas autorisés, c'était dans des endroits, un endroit qui n'était pas forcément à proximité. Enfin voilà, tout, ça partait d'un bon sentiment, mais même ça c'est compliqué. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait rien de prévu. Et après, ils ont prévu des choses plutôt pour protéger la société de ces personnes-là que pour protéger ces personnes-là. Vous voyez, je ne suis pas très claire, mais voilà, on est vraiment pas sur une comment dire, une réflexion je vais protéger les précaires. C'est encore une fois, je vais protéger la société des précaires.
Vous aviez peut-être entendu durant le confinement l'interview de Léa, réalisée par Anthony Hickok. Léa à la rue depuis près de 20 ans et à l'initiative du collectif Pirate créé pour venir en aide aux sans-abri et précaires durant le confinement. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas le cas, vous le trouverez en podcast sur le site. Elle nous racontait donc les amendes multiples qu'elle avait reçues en quelques jours de confinement, puisque nécessairement à la rue et dans l'impossibilité de se confiner. Une aberration pour la docteure Marvaux.
Déjà c'est un scandale, mais qu'il se fasse verbaliser plusieurs fois, c'est toujours les mêmes en plus, hein. C'est pas comme si on habitait à Paris ou à Bordeaux, donc il n'y a pas non plus 36 000 personnes à la rue, donc voilà, c'était...
C'est-à-dire qu'à un moment, les agents de police qui les contrôlaient se sont dit que finalement, ça c'était pas la peine, enfin ça servait à rien, ou c'est parce qu'ils sont partis justement, ils sont allés, je sais qu'à Tartas, il y avait un centre et...
Ah oui, non, alors il y en a qui se sont... cachés. Ils se sont abrités, ils ont ouvert des squats, ils se sont mis à l'abri.
Ouais. Voilà.
Après, il y en a qui se sont dit, moi, de toute façon, ils vont me verbaliser, ok, mais je les ai pas, c'est 135 euros, donc ils peuvent toujours me verbaliser. Mais voilà, c'est... Au bout d'un moment, les gens se sont... ont essayé de se confiner, mais sans maison, sans rien, donc... Après, voilà, après c'est du camping, après c'est on s'éloigne de la ville, mais si on s'éloigne de la ville, bah, comment est-ce qu'on a accès à la plateforme sociale, comment est-ce qu'on a accès à la douche, enfin c'est tout bien un petit peu plus compliqué quand on est à la rue. Mais voilà. Donc au bout d'un moment, oui, ils sont restés confinés à l'extérieur, mais à des endroits où on les voyait pas. C'est vraiment encore plus de l'invisibilité. Ce qui était intéressant, c'est que c'est des gens qu'on voit jamais, et à ce moment-là, c'est eux qu'on a vus. Et on les a enfin vus pour leur dire finalement cachez-vous, c'était mieux quand vous étiez cachés. Parce que, après moi j'ai été... Il y a beaucoup de gens qui ne se rendaient pas compte de toutes ces personnes qui vivaient dehors tout le temps, même en période hivernale. Alors il y a... En général l'hiver, il y a un décompte du nombre de SDF qui meurent. Donc ben voilà, on a des remarques comme ça. C'est terrible, il faut faire quelque chose. Il faut ouvrir des centres, un peu comme les urgences, hein. C'est pareil, les urgences, quand il y a des épidémies de grippe ou de Covid, vite, il faut faire quelque chose, il faut embaucher du monde. Et puis bon, bah, ça passe, puis finalement, chacun reprend sa vie. Là, tout le monde s'est mis à faire du pain, donc tout le monde va se remettre à faire du pain, puis les gens vont retourner dans la rue, et puis hier, pareil, ils dormiront dans la rue, puis c'est pas grave, parce qu'on fera tous notre propre pain, quoi. Donc... Enfin, après voilà, mais c'est bon, ça c'est très personnel, là on n'est plus du tout sur mon niveau professionnel. D'un point de vue personnel, moi ça m'énerve. Ça m'énerve et en même temps, voilà, est-ce que moi je suis prête à créer un centre d'accueil chez moi? Vous voyez, ça me renvoie aussi à mes propres contradictions. Vous voyez, c'est, dans ce cas-là, souvent on entend ça. C'est bah oui, mais dans ce cas-là, prenez-les chez vous. Mais c'est pas ça la question en fait. C'est pas est-ce que c'est à vous ou à moi d'accueillir ces gens dans nos domiciles. Non, c'est que chaque mois, parmi tout ce qui est ponctionné sur notre salaire, il y a un fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, il est aussi pour ces personnes qui se sont retrouvées dans ces situations. Et pour rappel, c'est pas des situations qu'ils ont choisies. Il y a des gens, ça arrive, hein, notamment sur le dispositif des liens de santé, on en a vu, qui ont décidé, c'est un choix de vie, de vivre dans la rue. C'est leur choix. Mais ça reste pas la règle, c'est pas la majorité. Il faut arrêter de croire que les personnes qui sont à la rue le sont parce qu'ils l'ont choisi, ou parce que c'est bien fait pour eux, ou parce qu'ils n'avaient qu'à pas être alcooliques, etc. Après, il faut aussi se demander comment est-ce qu'on peut survivre dans la rue sans picoler. Parce que enfin, moi, perso, je tiens pas dehors la nuit, l'hiver, si je suis pas un peu saoul, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est impossible de ne pas consommer de produits dehors, en vivant dans la rue tout le temps, quel que soit le temps, le climat, etc. Enfin, c'est pas des gens qui se retrouvent dehors parce qu'ils ont consommé. C'est souvent des gens qui se sont retrouvés dehors et qui, du coup, consomment pour survivre dehors. Parce que c'est terrible, la vie dehors. Enfin, faut... Voilà. Après, qu'est-ce que ça dit de notre société? Ça dit juste que, ben oui, on a été un peuple très solidaire. Et je pense que, historiquement, on a un potentiel de solidarité. Et voilà, on est quand même le pays des droits de l'homme, et je pense que il faut que ça ressorte, que ça revienne. Mais on va pas forcément vers une solidarité généralisée, une ouverture d'esprit. Voilà, on va plutôt dans le sens inverse, quoi. J'aurais tendance à imaginer que c'est plus chacun sa tronche. Voilà. Je sais pas si la crise qu'on vient de vivre, on va aller dans le sens de l'ouverture vers l'autre et de la solidarité généralisée, ou si on va pas plus encore se refermer sur nous-mêmes, en nous disant, ben voilà, en même temps, plus on va vers l'autre, plus on est à risque de se contaminer, plus on est à risque de se choper des choses.
Ça laisse rêveur, hein, rêveuse, enfin plutôt songeur ou songeuse. Ne laissons pas un virus anéantir le lien si précieux qui peut unir certains humains. Le lien, créons-en plein.